Robillard.
8h38 sur Europe 1, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Notre santé. Et ce matin, vous souhaitez revenir sur la contamination des enfants. Et je sais que certains auditeurs vont monter le son parce qu'on a beaucoup parlé des enfants. Il faut reconnaître que c'est parfois compliqué. Est-ce qu'on en sait un peu plus ?
Oui, alors je vais vous parler d'une étude incroyable américaine. 550 000 enfants testés positifs au Covid qui ont moins de 18 ans. Donc ça représente une énorme cohorte, une des plus grandes au monde. Alors les bonnes nouvelles, il y en a plusieurs. On peut rassurer les parents, les enfants font des formes peu graves. 2% simplement étaient hospitalisés et un taux de mortalité heureusement extrêmement faible à 0,01%. Donc pour ça, c'est plutôt rassurant. En ce qui concerne la proportion d'enfants malades, en avril dernier, aux États-Unis, il représentait 3% de l'ensemble des cas, ce qui veut donc dire qu'on avait 97% d'enfants malades, mais cette proportion est passée à 16% 8 semaines après. Alors on pouvait se demander, est-ce que c'est lié au fait qu'on teste plus ? Eh bien, il semblerait que oui, puisque le taux de positivité est resté stable à 5% ou 7%, donc les enfants peuvent tomber malades, ça on le savait. Est-ce qu'ils sont responsables d'une reprise de l'épidémie ? Eh bien, il ne semblerait pas tant que ça. Nos écoles sont ouvertes depuis plus d'un mois, donc on peut pour l'instant, peut-être que les données évolueront, être rassurant chez les petits-enfants. En ce qui concerne les plus grands, c'est une autre paire de manches.
Bon, de nombreux cas sont décrits dans les lycées, les universités. Est-ce que ce sont des lieux à risque de contamination ? En clair, Jimmy, est-ce que c'est risqué d'aller à l'école ?
Alors, tout d'abord, il faut reconnaître que nous avons perdu le contrôle du virus dans certaines zones et nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, les universités et certaines écoles représentent un tiers des contaminations. Sauf que on fait face à un protocole très strict où toutes les données remontent. Sauf qu'il y a d'énormes zones où on ne sait pas ce qui se passe. Évidemment, ce que je veux dire n'est pas populaire. Les facultés sont évidemment blindées avec des étudiants qui sont entassés dans des amphithéâtres. Mais ils sont masqués. Donc, à ce moment-là, ils ne tombent pas malades. Ils vont tomber malades le week-end lorsqu'ils vont aller faire la fête. De la même façon, lorsqu'on a vu les transports en commun, désormais ce n'est plus une zone à risque vu que tout le monde porte un masque. En revanche, on sait que les 18-25 ans sont responsables, sans les stigmatiser, d'une reprise de l'épidémie. Plusieurs conseils simples qu'on peut proposer: quand les bars et restaurants peuvent fermer à 22h, ce n'est pas pour aller vous rassembler à 22h30 dans des appartements entassés. Limitez les interactions sociales et on peut proposer deux choses pratiques puisqu'apparemment le message ne passe plus. On peut proposer des bulles sociales comme c'est fait notamment en Belgique. Faites-vous un groupe de 5-6 amis que vous allez voir en permanence. Vous ne voyez personne d'autre pendant 3 semaines si jamais vous devez faire des soirées. Ça permet de limiter la contagion et puis éviter ce qui peut être des bombes épidémiques avec ces fêtes illégales où on va avoir 500 personnes qui vont être responsable d'une diffusion massive de l'épidémie. Souvenez-vous, le rassemblement évangéliste à Mulhouse a créé l'épidémie en France. Bref, soyons prudents, 2-3 semaines un peu raisonnables et peut-être que les choses s'amélioreront.
Jimmy, vous voulez bien être dans ma bulle sociale ?
Avec grand plaisir Mathieu,
allez, on
sera dans ma bulle.
8h41.